Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Il faut assurer la stabilité financière et la stabilité des prix. Décision de la Réserve fédérale aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de faire les deux en même temps? On est dans une sorte de schizophrénie monétaire et les banques centrales, finalement, sont-elles prisonnières désormais des banques, tout simplement? Les banques sont-elles encore mortelles? Je poserai la question. La Suisse est décidée à identifier les responsables de l'affaire Crédit Suisse. Donc il faut bien sauver les banquiers, les banques plutôt, mais pas les banquiers, vous connaissez la formule. Puis on verra que derrière la débâcle des banques américaines, des banques régionales, il peut y avoir un enjeu immobilier. Dans cette émission également, j'évoquerai la construction, l'immobilier, le logement, le crédit est plus cher, les transactions reculent, les ventes dans le neuf se replient. L'année 2023 va être évidemment compliquée. Et puis, faut-il encadrer ChatGPT ? Bruxelles se pose la question au moment où un député français, pour alerter, a déposé un amendement qui a été rédigé par une intelligence artificielle dans le cadre du projet de loi relatif aux Jeux Olympiques 2024. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous publiez Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Membre du comité éditorial de Pour l'écho, avec à la une du numéro de mars, salaire, qui aura la plus grosse part. La une, je vous la montre là à l'écran. Guillaume Dard, bonjour.
Bonjour.
Président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, Association française de la gestion financière. Et Robin Rivaton, bonjour Robin.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol. Vous avez publié « Souriez, vous êtes filmé », le livre qui vous fera aimer la surveillance aux éditions de l'Observatoire. Ma conviction, Guillaume Dard, c'est qu'on peut faire les deux. On va monter les taux pour juguler l'inflation, notamment l'inflation sous-jacente, et on va mettre en place, comme l'a fait la Fed il y a quelques jours, des outils spécifiques pour assurer ad libitum la liquidité au système bancaire et financier.
Oui, vous voulez dire qu'on peut faire tout à la fois. On parlait avec Jean-Marc Daniel du théorème de Tinbergen.
Oui, Tinbergen. Premier prix Nobel d'économie de l'histoire.
Il disait qu'on ne peut pas faire plusieurs choses avec un seul instrument.
Mais pas un seul instrument.
Bon, et d'autant plus qu'il y a trois sujets. C'est pas un dilemme, c'est un trilemme. C'est-à-dire qu'il faut à la fois gérer le sujet de l'inflation, il faut gérer celui de l'économie, du marché du travail, et il faut gérer celui du système financier. Alors, pour se rendre compte de ce qui se passe, on est tous inquiets par le réchauffement climatique, qui est un sujet encore beaucoup plus grave, et où on parle de 4,5% de réchauffement. Enfin, là, on a pris 4,5 degrés de réchauffement sur les taux d'intérêt en un an aux États-Unis. Ça n'est jamais arrivé depuis Volcker...
Fin des années 70.
10, à un moment où la dette était beaucoup moins un sujet, c'est-à-dire tant la dette des États, les États-Unis étaient endettés à 20%, la France même, on peut le dire au passage, avant que Mitterrand prenne le pouvoir, la dette elle était en dessous de 25% du PIB. Et les entreprises étaient moins endettées, le système financier était moins
complexe,
complexe, et donc
moins
monter les taux aussi importants, de façon aussi significative qu'on vient de le faire, ça n'est pas sans effet pervers. Personne ne sait exactement. Il y a ce qu'on appelle le R-star, c'est-à-dire c'est le niveau de taux qui permet de lutter en théorie contre l'inflation
sans tout casser.
Avant de tout casser, et il y a le R-double star qui est le niveau de taux auquel vous cassez tout. Alors, où est-ce qu'il est, ce R-double star? C'est une étude de la Fed de New York que je conseille à Jean-Marc de lire. Eh ben, il est très, très, très proche. Très, très, très proche. En tout cas, on l'a bien vu il y a 15 jours, parce qu'il y a 15 jours, tout d'un coup, on a dit, finalement, le taux de la Fed va aller quasiment jusqu'à 6, il va aller à 5,75. Et là, en 15 jours, c'est le hasard, peut-être, mais enfin, beaucoup de choses ont cassé. Et ce taux à 6%, c'est ce qui s'est passé en 29. C'est-à-dire que le président de la Fédérale Réserve n'avait jamais voulu monter le taux dans les années 20. Il a eu un AVC, il a été remplacé. On a monté les taux à 6, on a eu le crack. Même chose pour les Japonais dans les années 80. Et à peu près la même chose en 2000 et à peu près la même chose en 2007. Donc 6%, c'est pas possible. Donc il peut peut-être un peu monter les taux d'intérêt, mais il arrive aux limites du système.
L'histoire se répète, Jean-Marc. L'histoire se répète avec un univers nouveau, parce que le quantitative easing qu'on a vécu pendant toutes ces années à ma connaissance, il n'y a pas de précédent historique quand même.
Oui, oui, il y avait effectivement une souplesse et une multiplication des crédits. Il n'y a pas de précédent historique parce que je maintiens, il y a quand même eu une grande rupture il y a 50 ans.
L'arrivée de l'or d'Espagne, des Amériques au 16e.
Non, il y a 50 ans. Ah oui, oui. Non, moi je ne reviens pas. Je parle justement
c'est
du départ de l'or.
C'est la fin de l'étalon or.
C'est la fin de l'or. C'est l'échange flottant, la fin de l'étalon or et la décision des Américains à partir du 10 mars 1973 de laisser filer la création de dollars sans véritable contrainte et sans éléments de référence qui puissent en limiter cette création. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est ça qui a permis ensuite le quantitative easing, c'est ça qui permet...
On a vu ce que c'est que du ad libitum,
c'est ad libitum, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est allez-y, voilà, c'est le quoi qu'il en coûte.
Chez Trump.
La généralisation de la
quantitative easing. Mais on n'en sort pas et on n'en sortira plus maintenant.
Et alors, le problème, c'est qu'effectivement, quand on revient aux objectifs qui sont assignés à la Réserve fédérale, justement après 1973, on lui dit, bon, vous allez maintenant prendre les rênes, c'est la politique monétaire, vous n'avez plus cette contrainte de l'or et vous allez avoir trois objectifs. Donc, le plein emploi, la stabilité des prix et un taux de croissance. Et le taux de croissance, c'est un taux d'intérêt conforme au taux de croissance. Bon. Ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe, c'est, un, Jérôme Powell a dit au mois de novembre que ces objectifs qui lui avaient été assignés en 1978 sont inaccessibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les trois, et donc il y avait une côté un peu religieux dans cette affirmation, mais la politique monétaire ne peut pas tout résoudre. Et pour en revenir à Tim Bergen dit bien, il faut identifier la liste des problèmes, il faut identifier la liste des outils, et un même outil peut, suivant les circonstances, être utilisé pour un problème différent. La situation à l'heure actuelle, c'est que l'outil traditionnel de hausse des taux d'intérêt pour répondre à l'inflation, à mon avis, n'est pas le bon outil. Et là où je rejoins Guillaume, c'est que effectivement, on est en train de rentrer dans une situation où on casse la dynamique économique pour répondre à un problème que l'on ne résout pas.
Les banquiers centraux vous disent que l'inflation sous-jacente justifie les hausses de taux.
Qu'il y ait de l'inflation qui soit la répercussion de la hausse des prix de l'énergie qui sont eux-mêmes en train de baisser en ce moment.
Ah mais très clairement.
Et donc qu'il y ait une hausse des prix. Mais l'inflation qui est cassée par les taux, c'est une inflation, comme on nous disait autrefois, par la demande. C'était une inflation qui était liée à une expansion excessive du crédit. Là, on est plutôt dans une phase d'expansion par les coûts. Ce qui est intéressant, c'est que Robert Boyer, pour les auditeurs, téléspectateurs un peu anciens, Robert Boyer, c'était la théorie de l'école de la régulation qui était très très dans les années 70-80, et Robert Boyer avait écrit un livre qui s'appelait « Accumulation, inflation », avec une analyse très très fine de l'inflation, et on vient de ressortir ses travaux, et il vient lui-même de ressortir un papier, en disant « on est en inflation de pénurie ».
Si on est d'accord.
Et l'inflation de pénurie, la politique monétaire ne peut rien.
Elle est devant une inflation de pénurie, ok, mais elle est devant un système financier qui vrille depuis 10 jours.
Oui, mais juste pour conclure, elle utilise mal son outil.
D'accord.
Et le deuxième enjeu, qui est le fait qu'effectivement, le système financier, lui, il subit les conséquences de ses décisions monétaires, parce que, ce que dit bien Tim Bergen, il y a aussi un élément qui consiste à regarder l'influence qu'un problème a sur un autre problème. Et donc là, on est en train de faire baisser les actifs du système financier, et donc là, il y a un autre outil qui est les liquidités, et là, en revanche, cet outil, il va être utilisé à fond, mais lui-même peut avoir un effet sur l'inflation.
Et
donc les deux sont interconnectés.
Et on se rend compte, en 15 jours, 3 semaines, on a remis presque 350 milliards de dollars dans le bilan de la Fed, ce qui fait qu'il avait perdu 600 milliards et il en a gagné 350.
Absolument.
Et donc on sent que c'est un peu coincé le système.
Robin, par rapport à ce qu'on a dit, et moi, ma conviction, c'est que c'est le nouveau monde, le nouveau mode de fonctionnement, c'est ça.
Moi, je pense qu'une fois qu'on a mis la main dans le pot de confiture, on ne peut pas y retourner. Hein. C'est une drogue qui est malheureusement assez addictive. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a fait croître énormément la masse monétaire. Il y a eu des mauvaises allocations du capital. Il y a des gens qui ont été des mauvais gestionnaires dans cette période-là. Et donc, si le moment où on commence à la faire réduire, on voit apparaître les travers des uns des autres.
Les excès, les bulles.
C'est du mauvais management dans les banques, chez Silicon Valley Bank, chez Credit Suisse. Ce sont des mauvais managers, des gens qui n'ont pas aligné correctement les risques et la part du bilan qu'ils avaient. C'est des gens qui ont fait des mauvaises allocations du capital. On prétend à des gens comme Archegos. Archegos, c'est un gars qui s'est exposé à 100 milliards.
C'est un fonds britannique, Archegos.
Américain. Un trader qui a été condamné partout pour fraude auparavant. Parce que là, c'est exposé jusqu'à 100 milliards il y a deux ans. Green Seal, je ne vais pas vous faire toute la liste des affaires. Mais vous l'écriviez
il y a deux ans, la course folle de la planète finance, où vous évoquiez Crédit Suisse avec son exposition sur le Brésil. britannique Greensill et sur l'américain Archegos.
En disant que
ce sont exactement les deux affaires qui ont vraiment durablement
planté. Et Wirecard, puisque Crédit Suisse a réussi à faire en 10 ans toutes les prêter à tous les pires margoulins que compte cette planète. Donc le sujet, c'est qu'on a eu des mauvaises allocations du capital et elles vont apparaître de plus en plus. Le deuxième point, c'est que là, on a effectivement, on fait mal au système financier, que la réponse, elle est très simple, ça va être de décorréler les outils des taux et les outils d'expansion du bilan avec de la liquidité. Et la liquidité, même si on a été très très forte cette année, hein, parce qu'il y a de la liquidité sur le bilan donc qui dure, mais la liquidité, ce qu'on appelle overnight, donc qui est le prêt toutes les nuits que fait la Fed, est à des niveaux records, même avant les affaires Crédit Suisse et Silicon Valley Bank.
Plus qu'en 2008.
Beaucoup plus qu'en 2008. Donc la Banque Centrale, de toute façon, avant même la crise financière qu'on connaît là, jouait un rôle qu'elle ne jouait pas il y a 10 ans. Elle joue un rôle central dans nos économies et il faut maintenant l'assumer, il faut l'accepter quelque part. Et les banquiers centraux ont un rôle qu'ils n'ont jamais eu dans nos sociétés. Aujourd'hui, ils sont
c'est le nouveau monde.
Ils sont les gardiens du temple ou les dieux de l'économie et leurs décisions ont un impact extrêmement fort sur nos vies au quotidien. Et donc aujourd'hui, quel est
l'impact, c'est le prix de l'argent.
C'est le prix de l'argent, mais c'est aussi liquidité. Encore une fois, ils ont une palette d'outils aujourd'hui qui s'est aussi largement ouverte. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent plus seulement que par le taux directeur.
Enfin, à mon avis,
165 milliards de dollars, c'est ce que la Fed a rendu disponible en liquidité en l'espace d'une semaine, dont 12 milliards pour le tout nouveau fonds d'urgence installé après.
Et la question, juste un dernier point qui pour moi soulève un débat, c'est quel sera le rôle des banques dans ce nouveau monde ?
Des banques commerciales.
Des banques commerciales, c'est-à-dire que quand vous avez une institution au-dessus de vous qui en fait est la main de Dieu, qui fait ce qu'elle veut sur le marché, quel est le rôle de la banque commerciale si ce n'est faire des conneries ?
Voilà. Ils ne sont ni gardiens du temple, ni des dieux. Parce que on ne va pas pardonner SVB, mais il faut se souvenir qu'il y a, en 2021, Powell a dit « Nous ne pensons même pas à penser à monter les taux d'intérêt ». Alors, c'est là où on peut dire, les gars de SVB, ils sont idiots parce que toute personne normale ne devrait pas croire un faux dieu. Mais enfin, c'est complexe.
Il y a des erreurs de management derrière qui ont été quand même pas mal.
Oui, bien sûr. Mais enfin, quand même, si vous aviez ce monde à taux zéro, comme Robin l'a très bien dit, a rendu tout le monde fou. D'ailleurs, c'est en dessous de 2% où l'allocation de capital devient très mauvaise. C'était Bejot qui le disait. En dessous de 2%, le fondateur de l'économiste anglais, en dessous de 2%, John Bull devient dingue. Et donc, toutes ces mauvaises allocations du capital, ils sont chacun responsable. C'est un principe de base. Mais enfin, les dieux ou les faux dieux et les gardiens du temple n'ont pas gardé le temple.
Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on disait, bon ben voilà, il y a eu la crise de 29 qui a apporté, on en a tiré les leçons, notamment Ben Bernanke, c'est l'objet de ses travaux, et puis peut-être que dans quelques années, on dira qu'en 2015-2023, les banques centrales ont commis la plus grosse erreur
très
de politique monétaire.
De faire la règle. Comment s'appellent les deux Américains, la loi américaine sur les banques
Dodd-Frank.
Dodd-Frank.
Mais vous avez ça, c'est la loi qui a durci les règles.
Et vous savez ce qu'il vient de faire, monsieur Frank?
Non.
Une faillite bancaire avec signature.
Ah bon, il était...
Oui, il est dedans. Donc, c'est pas si facile.
Non, mais c'est... Enfin, j'oublierai jamais la dédicace de Patrick Artus dans son livre sur la folie des banques centrales. Il m'avait écrit à la main, la prochaine crise arrive, la BCE l'organise. Et c'est ce que vous écrivez dans l'Express il y a 2 ans, en fait. De la même manière, Robin Rivaton, il y a 2 ans, en avril 2021. C'est pas une surprise. C'est le nouveau monde, Jean-Marc. Le nouveau monde.
Non, je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Robin Rivaton. D'accord. Les banques centrales, elles sont en train de perdre toute forme d'influence, puisqu'elles ont une mission qui était une mission, encore une fois, de lutter contre l'inflation. Je prends la liste. Et elles ont retrouvé leur rôle historique. C'était leur rôle de prêteur en dernier ressort. C'est celui qui est à l'origine de la création des banques centrales. Donc c'est pas nouveau. Elles ont été créées pour ça. Quand on regarde le statut de 1694 de la Banque d'Angleterre, elle fait exactement...
Les montants, Jean-Marc, les montants.
Oui, mais l'enjeu, on est à des économies qui sont... La grande différence, effectivement, c'est que en 1694, il y avait une limite qui était la convertibilité en or. Cette limite a disparu. Quant aux banques commerciales, les banques centrales d'origine l'ont affirmé d'emblée, elles ne sont pas là pour prêter. C'est pas elles qui créent de la monnaie. Et c'est toujours les banques commerciales qui créent de la monnaie.
On est d'accord.
Alors après, le rôle de la banque centrale, c'est de faire le tri entre ce qui est liquide, illiquide, ce qui est solvable, insolvable. Et ça, c'est encore une fois, là aussi, c'est un rôle historique de la banque centrale qui existe depuis 1694.
Je suis d'accord.
Donc, ce n'est pas le monde nouveau. Le seul monde nouveau, c'est effectivement, l'absence de limite dans la création de liquidités.
Voilà, c'est les montants.
Mais ça, c'est pas 2008, ça, c'est 1973. Donc, il n'y a rien de nouveau.
Oui, le principe, c'est 1973. La réalité des bilans, c'est bien aujourd'hui.
Mais pas du tout. Vous regardez les bilans de 1982-83, vous regardez la façon dont je sauve sauf les banques et pas les banquiers. Quand vous regardez Volcker, il prend la Continental Illinois.
Ah, il tue les caisses d'épargne, non mais d'accord.
Non. Il faut pas dire des bêtises, il faut dire ce qui s'est vraiment passé. Donc, il prend la Continental Illinois, c'est à cette occasion qu'il leur dit, je sauve la banque et pas les banquiers. Et il dit, effectivement, vous êtes exposé au risque mexicain, ce risque, c'est moi qui l'ai créé en augmentant les taux d'intérêt, néanmoins, la structure de votre banque, les fragilités de votre banque, c'est vous qui les avez créées. Donc, la banque est solvable, donc je vais lutter contre son illiquidité, néanmoins, les fragilités que vous avez créées, je vais vous sanctionner, donc vous sortez. Mais il fait vraiment la différence à cette occasion entre liquide insolvable et les responsabilités de chacun. Encore une fois, c'était en 82. Donc, ce qui, d'ailleurs, me paraît plus inquiétant dans tout ça, c'est les 57 pays qui ne peuvent pas honorer leurs engagements d'ici à la fin de l'année. Et ça, c'est plus grave que la SVB, c'est plus grave que Crédit Suisse. Crédit Suisse, ça fait 2 ans qu'on sait que
Il y a eu un scandale en 2019.
Oui, donc on sait que... c'est ça le véritable enjeu, c'est est-ce que les taux d'intérêt qui montent, vont être vraiment pénalisés? Et je pense qu'on va vers une crise de la dette type 82 et de la décennie perdue pour les pays en voie de développement.
Donc, par rapport à la bonne question...
On est allé un peu trop vite en disant qu'il n'y aurait pas de récession.
Par la bonne question de Romain, du rôle des banques commerciales. Il y a un très bon article de Martin Wolf dans le Financial Times de ce matin qui dit, au fond, quel est le sujet pour des autorités et des banquiers centraux, c'est qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas laisser complètement les banques faire faillite à cause des déposants.
Ah oui.
Hein, c'est la question.
Sauver les banques, mais pas les banquiers, c'est l'idée.
Et donc,
pas les banques, c'est les déposants, c'est totalement différent.
Oui, mais quand on dit sauver les banques, c'est sauver les déposants.
Donc le sujet, c'est sauver les déposants.
Oui.
Vous n'avez pas envie que votre argent disparaisse.
Oui.
Voilà. Et donc,
vous pouvez couler la banque et sauver les déposants.
Ce que dit Martin Wolf, qui est très fort, il dit, au fond, on a très bien, en Europe en tout cas, très bien réglementé depuis 15 ans. Néanmoins, quand on voit la taille des sujets actuels, qui sont en milliers de milliards...
C'est ça.
Ça prouve qu'au fond, les banques sont trop grandes et sont. Ils ne préconisent pas une seule solution. Il dit probablement, il faut que le levier bancaire soit encore diminué. C'est-à-dire que, au lieu de prêter 20 fois vos fonds propres,
il faut durcir encore.
Il faudrait limiter à 3-4 fois. C'est-à-dire que le levier, si on considère que socialement, on ne peut plus laisser tomber les déposants, on le faisait au 19e siècle. Il y a des gens qui ont été ruinés par votre banquier faisait faillite. C'était comme à Hedge Fund, vous étiez ruiné pour des... Il n'y avait aucun recours. Aujourd'hui, socialement, on ne peut plus laisser les déposants perdre leur argent. Et donc, il va falloir probablement encore réglementer davantage les banques pour qu'elles n'aient pas un effet de levier qui rende le sujet trop macroéconomique.
Il va falloir la création de nouvelles banques dans ce cas-là, en Europe, pour pouvoir continuer à avoir
le marché à l'américaine.
Pourquoi vous dites ça, Romain?
Si les banques ont moins de levier, les banques installées, c'est-à-dire qu'il faudra des nouveaux arrivants pour venir combler l'effet de levier qu'elles n'offrent plus. Or, aujourd'hui,
ce sera du shadow banking.
Alors, ça peut être des acteurs.
Au moins, votre dépôt est garanti, et si vous allez faire des placements, vous avez du risque, vous en êtes conscient.
Là, effectivement, on passe sous les radars.
Il ne faut pas que ce qui vous semble sans risque, c'est-à-dire déposer votre argent à la banque, soit à risque, et il faut donc que les banques soient plus petites. Et quand vous voulez gagner plus d'argent, là, vous prenez votre risque d'investisseur.
J'en entends certains commencer à ressusciter l'idée du retour du Glass-Steagall Act. Hein. Bon.
Mais c'est pas ça le sujet.
Je vous dis simplement que c'est la taille du bilan. Je suis d'accord.
Prenez la banque
mieux
gérée en Europe. Elle a un bilan tellement gros par rapport à ses fonds propres.
Bien sûr.
Que s'il y a un accident auquel on ne songe pas aujourd'hui, de toute manière, il va falloir augmenter encore la dette des États.
Quand bien même elle ne va pas sur les activités d'investissement. Ça peut être simplement ses activités normales qui seraient du côté de crédit, qui peuvent l'entraîner dans sa chute. Donc aujourd'hui, le sujet n'est pas sur la dissociation des deux types d'activités. Le sujet est vraiment sur effectivement la taille de ces banques qui sont devenues tellement grosses qu'elles sont, je maintiens ce que je disais, des filiales ou des succursales des banques centrales. Et la liquidité offerte toutes les nuits par la banque centrale en remplacement de la liquidité interbancaire. Avant, les banques, qu'est-ce qu'elles faisaient la nuit? Elles se prêtaient de l'argent entre elles en solvant les positions. Aujourd'hui, mais depuis maintenant, ça s'est très largement aggravé depuis 3 ans, c'est la banque centrale qui joue ce rôle. Et donc, il y a vraiment les banques centrales sont immiscées dans le système, elles sont au cœur de ce système. Et donc, donc se pose effectivement la question de ces banques commerciales.
Vous nous dites...
J'insiste, c'est le rôle de la Banque Centrale d'être prêteur en dernier ressort.
Absolument.
Et donc le fait que le jour soit axé sur la Banque Centrale...
Mais peut-être
c'est
pas
comme
tous
ça
les jours.
Tous les jours, Jean-Marc.
Peut-être
mais
pas tous les jours.
Non, Jean-Marc,
c'est comme ça.
Je suis pas d'accord.
Jean-Marc, dans les crises, c'est la phrase de Béchot, la Banque Centrale est là pour prêter à taux cher contre les actifs solvables.
Pas toutes les nuits,
pas toutes les nuits.
Toutes les nuits à minuit.
Si les banques les nuits, au jour le jour, il y a une intervention de la Banque Centrale. Alors, elle est plus ou moins importante.
Voilà. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'elle est trop importante là par rapport à l'histoire. Enfin, c'est bien qu'elle soit trop importante parce qu'on est en crise. Oui. Mais le système de l'interbancaire, enfin, j'ai un peu d'expérience. On ne se posait pas la question en 85 de savoir si les autres banques étaient en risque.
Exactement.
Moi, c'est encore une fois, par rapport à l'histoire et tout ce qu'on a dit,
En 85, les banques étaient nationalisées. Et donc, on n'est pas dans le même schéma en France sur les termes
bancaires. Alors, en 90, elles étaient nationalisées.
Bon, moi, c'est... Alors, juste deux remarques.
Parce que le temps file.
Je maintiens le rôle d'une banque commerciale, c'est de créer de la monnaie, de prêter. Et ça subsistera. Le seul véritable débat, c'est est-ce que la Banque Centrale en crée une monnaie numérique va s'arranger ce droit.
C'est l'autre idée de Martin Wolf, d'ailleurs, c'est que les dépôts...
Et donc, pas ensemble.
C'est ça le vrai débat.
Ah ben, moi, l'euro numérique me fascine, ce sujet.
Voilà. Est-ce qu'on va vers ça ou pas?
Bon. Ah oui.
Mais ça, c'est un sujet de moyen long terme.
On est d'accord.
C'est ça qui est un des enjeux.
C'est-à-dire que la banque, si vous déposez directement votre argent à la Banque Centrale, en théorie, parce que la Banque Centrale...
Vous n'avez plus besoin de la Banque Commerciale.
Non, vous avez, la Banque Commerciale ne, vous n'aurez pas, enfin, vous n'aurez pas le risque de perdre vos dépôts.
La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'effectivement, il faut distinguer le risque sur les dépôts et la banque et le banquier. Et donc, effectivement, la banque et le banquier, c'est une activité commerciale. Donc, ils doivent pouvoir faire faillite. Et ils font faillite. Et donc, là où je rejoins ce que dit Martin Wolf, c'est que quand on regarde l'évolution du tissu bancaire, effectivement, il y a de moins en moins de banques, il y a une concentration du système des banques. Et donc, rétablir de la concurrence dans les banques, ce serait une bonne chose.
Alors, moi, c'est encore une fois l'histoire. Je l'entends, mais c'est les montants d'aujourd'hui qui m'impressionnent un peu, et c'est ce qu'on disait sur l'overnight à l'instant. Robin Rivaton, on a 43 secondes.
Un dernier mot, parce que ça m'amuse. Le pays qui aujourd'hui est le plus en pointe sur le digital currency, donc c'est la Chine, avec le yuan numérique.
Oui.
C'est un des pays qui laisse encore mourir ses banques. On l'a un peu oublié, mais il y a 3-4 mois, il y a des banques entières, des banques régionales chinoises qui ont été fermées. Les gens faisaient la file d'attente parce qu'ils n'étaient pas sûrs de récupérer leurs dépôts. Finalement, le gouvernement a intervenu, mais il n'a pas rendu tout l'argent à tous les déposants. Donc on voit bien que c'est de ces pays-là que naîtront les solutions de monnaie de banque centrale, parce que c'est là où on est moins habitué à couvrir les déposants.
Mais c'est probablement pas fini l'histoire aux États-Unis. La First Republic Bank, là, elle est encore en train de chuter en bourse. Pourtant, Dieu sait s'il y a eu une grosse intervention des principaux banquiers américains la semaine dernière en apportant 30 milliards de dollars. Bon, on marque une pause. Dans un instant, on regardera s'il y a un enjeu immobilier derrière cette histoire de banque américaine, parce que moi, depuis le début, j'avais le sentiment qu'au moins, il n'y avait pas d'enjeu immobilier. Vous me dites que visiblement,
il y a toujours un enjeu immobilier.
Et on parlera justement de l'année 2023, à la fois pour l'immobilier, mais le logement et la construction. Ça s'annonce quand même assez difficile. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui publie Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et qui est membre du comité éditorial de Pour l'Écho. À la une du numéro du mois de mars, salaire. Qui aura la plus grosse part? Point d'interrogation. Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG, l'Association Française de la Gestion Financière, et Robin Rivaton, le directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes l'auteur de Souriez, vous êtes filmé, le livre qui vous fera aimer la surveillance aux éditions de l'Observatoire. Juste avant de parler de l'immobilier, on s'est réjoui depuis 3 semaines, 1 mois, Jean-Marc, que finalement la récession tant annoncée n'était pas là. On s'est réjoui trop vite, vous croyez ?
Ah non, pas du tout.
Non.
Je pense que les éléments...
Ce qu'on vient de se raconter avant, là ?
Oui, j'entends bien. Et effectivement, il y a toujours une menace d'une erreur fatale. Mais quand vous regardez quand même les enquêtes auprès des chefs d'entreprise...
Je suis d'accord.
C'est parce que l'économie, c'est des gens qui se lèvent le matin tôt, pour aller travailler dans des lieux de travail, même si maintenant ils sont de plus en plus en télétravail. C'est ce qu'a raconté Laurent Vronsky un jour ici. Il dit, c'est bon, à l'Argenteuil, l'antenne de ma banque, quand je lui parle du quantitative easing, il dit, je sais pas. En revanche, votre crédit, là, ça va pas du tout. Donc c'est ça aussi l'économie. Et donc quand on regarde les enquêtes aussi bien de la Banque de France que de l'INSEE, pour l'instant, ce qui est important, c'est que les chefs d'entreprise sont tout à fait prêts à maintenir leur volume d'investissement. Et donc c'est ça qui est le véritable enjeu. Alors, simplement, ça peut se retourner très vite. Ce que dit bien l'INSEE, c'est que les chefs d'entreprise, les enquêtes qu'ils font montrent que les chefs d'entreprise ont l'intention d'investir, mais ils sont quand même assez prudents. C'est-à-dire,
faible visibilité, disent-ils.
Ils disent qu'il y a une très faible visibilité, exactement.
Okay. Il y a eu un paradoxe, c'est que un certain nombre d'entreprises ont finalement réussi à s'en tirer par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que la première vague, ça a été la hausse des coûts très forts et les pénuries. Et donc, les clients de ces entreprises ont compris que les prix pouvaient monter. Alors, quelle est la marge ? Jean-Marc en a bien parlé aux États-Unis, le fait qu'il y a moins de concurrence. Et donc, le cycle fait que beaucoup, le fait d'avoir des prix nominaux qui montent, ça permet quand même de passer et ça donne un peu d'enthousiasme. C'est-à-dire que quand vous êtes à zéro, c'est plus vertueux, mais vous ne pouvez pas monter votre prix de vente de 0,50% sans que votre client pousse des cris d'orfraie. Alors que quand on dit « Ah, bah, y a de l'inflation », la perception du prix est un peu moins forte par le client final parce qu'il ne sait pas si vous êtes juste en train de retransmettre purement votre augmentation des coûts ou si vous en prenez un peu plus. C'est pas dans tous les métiers, mais dans beaucoup de métiers industriels, si vous prenez le luxe, hein, d'ailleurs, métier où vous êtes moins sensible au prix, mais enfin, j'aimerais bien savoir quelle est la variation du sac, je vais vous donner aucune marque, mais enfin, du sac de luxe que les Chinois s'arrachent aux Champs-Élysées.
Une idée.
Mais il a monté.
Bon, en tout cas, c'est vrai que la Banque de France, il y a encore 48 heures, nous a dit, non, c'est bon, l'inflation va décélérer, et la décélération va s'accélérer cet été, la croissance sera plus forte que prévu en 2023.
Oui, ils attendent la marge, les 0,6.
Ah ben, 0,3, ils passent de plus 0,3 à plus 0,6, oui.
Ils avaient été prudents avant.
Oui, c'est pas le Pérou, c'est en dessous de la prévision du gouvernement, le pouvoir d'achat va à peu près se maintenir, très légèrement baisser. Ça reste pour l'instant le scénario, nous évitons la récession.
Hein. Heureusement qu'elle dit pas le contraire.
Hein. Oui. Et sur les baisses de pouvoir d'achat, c'est, je rappelle, en France, c'est extrêmement rare, hein, le pouvoir d'achat a baissé depuis 1945 que deux années, hein, en 1983 et en 2012. Alors j'associe ça au fait que c'était les socialistes qui étaient au pouvoir et ils sont plus là, les socialistes. Donc le pouvoir d'achat ne baissera plus.
La Banque de France de dit moins 0,2 là.
Oui.
Robin, je pensais qu'il n'y avait pas d'immobilier. Moi ça me rassure, il n'y a pas d'immobilier parce que c'est un amplificateur de crise, l'immobilier. Il y a quand même eu légèrement de l'immobilier en 2008 avec des crédits hypothécaires pourris qui ont un peu mis le bazar. Et là vous me dites qu'en fait derrière ces banques régionales aux États-Unis, le mot immobilier existe ?
Oui, il y a beaucoup d'immobilier. Alors, c'est assez marrant parce que Signature Bank, l'une des deux banques qui est tombée, était la banque...
celle de Monsieur Franck.
Voilà, celle de Monsieur Franck. Était la banque qui prêtait aux multipropriétaires new-yorkais. Donc, c'était vraiment la banque des gens qui avaient 3-4 immeubles à New York. Et en fait, en 2018, ils disent, on est trop exposé à l'immobilier, on va se mettre sur les cryptos. Joyeuse idée, et donc pendant 4 ans ils prêtent à toute la scène ce compte de crypto start-up, et puis en 2023 la marée se retire comme on dit, et puis la vérité apparaît. Mais les autres banques régionales, donc tout ce système de banques régionales, elles sont très nombreuses aux États-Unis, elles ont plutôt beaucoup prêté au secteur immobilier. Juste pour donner un chiffre, leur part dans tous les prêts, ce qu'on appelle commercial real estate, donc l'immobilier tertiaire aux États-Unis, le bureau, tout ce qui n'est pas du résidentiel, leur part dans la production de ces crédits est passée de 58% avant en 2016 à 70%. Elles ont vraiment pris une très très grosse ampleur dans ce sujet-là, en prêtant pour plein de projets de développement de bureaux dans toutes les villes régionales que vous pouvez imaginer aux États-Unis, et en accélérant post-Covid, en se disant va y avoir les gens vont bouger des grandes villes vers les plus petites régionales, et donc ça vaut le coup de mettre un grand immeuble de bureaux ici. Ces banques-là, ces créances-là, elles sont aujourd'hui relativement bien servies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas des prêts qui sont non performants, c'est-à-dire qu'ils continuent d'être remboursés. La question qui se pose, c'est si tout d'un coup ces banques doivent rembourser très vite les déposants, qu'est-ce qu'elles vont vendre comme actifs ? Elles vont vendre ces actifs immobiliers, du moins les titres immobiliers qu'elles ont sur ces actifs, les crédits. Et ces actifs, aujourd'hui, bah, un immeuble de bureau en banlieue d'une ville régionale américaine, bon, bah, avec le télétravail, on se rend compte qu'en fait, les gens, ils ont pas vraiment quitté les grandes villes. Bah, on se dit que ça vaut un peu moins cher que quand on a prêté, voilà. Et donc, il y a tout beaucoup de gens qui se disent, oulalalala, il faut espérer qu'il n'y ait pas un bank run sur les caisses régionales.
Et deuxième facteur qui est purement technique, qu'est-ce que c'est que de l'immobilier? C'est de l'obligation à très long terme.
Ouais.
Ben vous le voyez bien quand on explique que 1% de hausse des taux, enfin qu'on a perdu 20 mètres carrés. Hein?
C'est ça.
20 mètres carrés puisque les taux sont plus hauts. Donc ça veut dire que quand vous avez une obligation, un crédit que vous avez fait à 1%, et que maintenant le niveau des taux pour l'immobilier, il est plutôt aux États-Unis à 8, 9, 10.
On est à 10.
Ah oui, oui.
Sur l'immo,
sur l'immobilier commercial. Oui, c'est 10%.
Et ça m'avait échappé.
10%.
Mais je crois.
Enfin, il était peut-être, d'ailleurs, il était pas à 1, il était à 2, mais enfin, il était à 8, il est à 8, 10 aujourd'hui. Donc, ça fait 8% sur une duration longue, c'est-à-dire sur une durée longue. Et donc, le calcul, ça va être de l'ordre de 40% de perte. C'est-à-dire que vous devez, vous avez perdu 40% sur ces crédits. Donc, si vous avez perdu 40% sur ces crédits, les banques, là, est-ce qu'elles sont solvables ou pas? C'est pas évident. Donc là, on prend le théorème de Jean-Marc, hop.
Jean-Marc. On tue la banque.
Le crédit.
La banque est solvable, la tue.
Le crédit est plus cher, les refus de prêt se sont multipliés, les transactions sont plus rares, elles sont plus longues. On voit que les ventes de logements neufs se replient très sérieusement. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une dimension immobilière à laquelle on pensait échapper, qui pourrait s'installer dans les clignotants qu'on observe?
Oui, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est d'abord...
On parle de la France, hein, là.
Oui. Non, mais la France, c'est effectivement... Mais Robin l'a dit, aux États-Unis, on a expliqué aux gens, vous allez quitter New York, vous installez...
On a expliqué, on a pensé qu'ils allaient.
Oui, on a dit, voilà...
On a pensé ici aussi qu'il y aurait un exode urbain, il n'y a pas eu d'exode urbain.
Oui, mais voilà. Ça veut dire que, grosso modo, on échange de la population de Paris et de Lyon contre la population à Angers et à Brest.
Oui, c'est ça.
Mais on n'est plus dans une phase où la population augmente. Et donc, vous avez des projections sur l'immobilier qui expliquent que, en fait, on n'est plus dans la phase où il y avait besoin de logements parce qu'il y avait de plus en plus d'habitants. On est dans la phase où il y a une sorte de relocalisation des populations avec... on est passé de l'exode rural, maintenant, à une forme d'exode urbain, où on change. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans un système qui est en expansion automatique, vous êtes dans un système où on peut faire des erreurs. C'est-à-dire que, je maintiens, dans les années 60, on pouvait construire un bâtiment, on trouvait toujours quelqu'un pour l'occuper. Et là, maintenant, il faut trouver quelqu'un pour le... malgré les discours sur le manque de logements, il faut faire 500 000 logements par quinquennat et tout ça. Et donc, je pense que la réflexion de l'immobilier devient une réflexion, mais là, je parle sous contrôle de Robin Rivaton, d'une réflexion plus minutieuse. C'est moins automatique, moins facile. Et donc, indépendamment des aspects conjoncturels de l'évolution des taux d'intérêt, je crois qu'il y a un vrai enjeu sur l'immobilier. Pour la ramener, encore une fois, avec des citations d'économistes célèbres, Keynes, en 1938, avait écrit à Roosevelt en lui disant, il faut surtout pas arrêter la relance et tout ça. Et si vous avez un doute, il faut soutenir le logement et l'immobilier parce que la population américaine va s'accroître et tout ça. Et s'il y a un secteur qui sera jamais en crise, c'est l'immobilier. Sauf que depuis, l'immobilier a été, un, souvent en crise, et deux, la logique, la population va s'accroître, elle ne s'applique... Alors, elle peut s'appliquer aux États-Unis, mais elle ne s'applique carrément pas aux pays européens. Donc, je pense que la réflexion sur l'immobilier va changer de nature, mais c'est plutôt le spécialiste qui va réagir à cette affirmation.
Dans un instant, généralement, l'immobilier, on finit par le trouver dans deux graves crises. Sur trois, il y a de l'immobilier quelque part. Hein. Il y a cet auditeur qui s'appelle Onillon, qui me dit l'intérêt du Glass-Steagall Act, c'est que la Banque centrale pourra se contenter de sécuriser les dépôts et ne plus sécuriser les investissements. Quand vous entendez ça, ça vous inspire?
C'est vrai et pas vrai à la fois. C'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que quand vous avez une très grande banque qui fait à la fois de l'investissement et de la banque de crédit, l'investissement peut rajouter du risque, notamment par exemple sur les marchés.
Non, mais là l'idée, c'est que s'il y en a une qui doit crever, c'est celle de l'investissement, et que celle des dépôts, on la sauve.
Oui, mais il faut aller jusqu'au bout, parce que de quoi parle-t-on à la seconde? C'est de dire qu'est-ce que valent, par exemple, les crédits. Là, c'est pas de la banque d'investissement, les banques non. américaines qui font du crédit immobilier, c'est de la banque commerciale.
Ah oui, c'est de la banque.
Et donc c'est du côté du bon côté entre guillemets du Glass-Steagall Act.
C'est du côté banque gentille, c'est ça.
Et donc le problème, c'est que ça suffit pas, parce que si ces crédits sont mauvais, il reste le problème des dépôts. Donc la question de comment est-ce qu'on sécurise les dépôts, elle est très complexe. Peut-être que ce sera justement la monnaie numérique banque centrale, peut-être que ce sera la réduction des banques. Ce sujet n'est pas réglé.
Robert Rivaton, oui,
il a raison. C'est-à-dire que le Glass-Steagall Act, ça crée deux types d'établissements financiers, et dans toute une partie de son croyait-être des banques ne relevait pas de la banque centrale. Lehman Brothers, ce n'était pas une banque
il a raison au sens où ça réduit le problème et ça ne le fait pas disparaître.
Voilà,
banque d'affaires, Lehman Brothers.
Voilà, exactement. Elle n'était pas concernée par la banque centrale.
Non, mais elle avait 34 étages à Manhattan, elle était symbolique, elle était visible. Bon, c'est pas comme la SVB qui avait un petit bâtiment à Santa Clara.
Pour sauver Goldman Sachs ou Morgan Stanley,
on leur a demandé de devenir des banques.
Exactement. Exactement. Parce que c'était comme les Van Brothers. C'était plus des banques.
Je parlais avec vous, et je parle toujours de l'immobilier, mais de la construction aussi quand vous venez, Romain Yvaton, parce que c'est quand même l'une de, enfin, c'est votre métier aujourd'hui. Et parmi les éléments, je mettais crédit, transactions, vente dans le neuf, vous me dites que l'un des éléments explicatifs de la situation que nous connaissons, qui est un marché de pénurie, c'est qu'on est allé trop loin, probablement, dans le siphonnage des recettes des collectivités locales.
Oui, alors juste pour expliquer quand même ce qui s'est passé. L'immobilier, c'est la classe d'actifs qui est la plus leveragée, donc qui bénéficie le plus de la qui a bénéficié le plus de la baisse des taux d'intérêt. Et donc, on a vécu une décennie incroyable. Une décennie incroyable, c'est-à-dire en nombre de transactions. Le nombre de transactions a été multiplié, a fait 50, plus 50%.
On a fait des 2 millions de...
1,2 million. 1,2 million. On est passé à 700 000 transactions en 2000, dans les années 2010, à 1 million 2. Donc, un truc qui fait plus 50% sur un marché aussi gros, ça doit quand même un peu tilter dans les oreilles des gens, quoi. Il n'y a pas de raison, la viscosité du marché, là, c'est pas tout d'un coup amélioré significativement. Les prix ont explosé, la construction, on a produit beaucoup de logements, donc on a vécu des années extraordinaires. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, bah ouais, c'est moins bien. Bah oui, quand on est tout en haut, oui. Si on redescend un peu, c'est moins bien.
L'effet de base donc, fait que...
Forcément, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ce qui se passe sur le secteur, c'est pareil. Dans le secteur, tous les gens qui étaient dans le secteur, il y avait, quand le marché avance tout seul, ce qu'on appelle le bêta, il y a personne qui faisait de l'alpha. C'est-à-dire que même la chèvre, elle investissait, puis elle finissait par avoir un rendement. Elle trouvait quelqu'un qui prenait son immeuble à la sortie. Donc, il n'y a pas eu de dispersion des performances. Tout le monde a fait de la perf. Aujourd'hui, bah, c'est plus dur. C'est plus dur pourquoi? Parce que, Jean-Marc l'a un peu dit, il y a des classes d'actifs qui ont disparu. C'est-à-dire que plus personne ne fait du bureau aujourd'hui. Le bureau, on s'est rendu compte qu'en fait, télétravail, dès qu'on n'était pas en centralité, c'était moins sexy, et donc les gens, ils veulent plus faire du bureau. Le commerce, e-commerce, tout le tralala, les centres commerciaux, on touche ça de loin. La seule classe d'actifs qui garde un peu d'intérêt, c'est le résidentiel. Je vais m'inscrire un tout petit peu en faux par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc, mais c'est que effectivement, la population croit beaucoup moins, ça c'est certain, mais il y a un driver qui est très puissant pour le résidentiel, c'est que les gens vivent seuls. Donc il y a une diminution du nombre de personnes par foyer très très forte et qui va continuer, il va se poursuivre dans le temps. Donc s'il y a moins de personnes par foyer, ben, il faut plus de foyers.
Il faut plus de...
C'est assez, là aussi assez basique. Donc il y a un très très fort soutien sur le résidentiel, ce qui fait que dans l'ensemble, il peut y avoir des baisses de prix ici ou là, mais le résidentiel est un marché qui va plutôt...
C'est pas époustouflant tenir. Les baisses de prix. Il y en a, mais elles sont pas
époustouflantes. Elles sont relativement... Vu la baisse de la production de crédit, elles sont même anormalement basses en réalité. C'est-à-dire qu'on aurait attendu à ce qu'elles soient plus fortes, ces baisses de prix. Donc ça c'est le marché. La question sur ce marché qui va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on est capable de produire... Il y a deux questions. Est-ce qu'on va être capable de produire suffisamment de logements pour répondre à la demande? Et là, vous avez pointé ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, les communes, les collectivités territoriales n'ont plus aucun intérêt à faire venir de nouveaux habitants. Il n'y a plus aucun lien dynamique entre le nombre d'habitants et les recettes d'une commune. Or, le maire, on peut lui faire plein de reproches, mais il y a quand même un compte de résultats qui doit rendre à l'équilibre à la fin de l'année.
Pas Bruno, hein, le maire d'un village. Hein.
Le maire d'un village ou d'une ville, il doit rendre un compte de résultat avec des recettes, des dépenses, ça doit être à l'équilibre à la fin de l'année.
C'est la loi. C'est la loi.
Et donc, s'il dit, vous faites venir des nouveaux habitants, il faut faire place de crèche, école, vidéosurveillance, la police municipale, les espaces verts, il dit, moi, je n'en veux pas de vos nouveaux habitants.
Parce qu'on lui a retiré trop d'argent. Avec la taxe d'habitation.
Il n'y a plus la taxe d'habitation, qui était le seul lien dynamique qu'il avait. Donc, il va augmenter la taxe foncière, il va tirer un peu. Mais bon, au bout d'un moment, les gens qui viennent, il n'y a pas que des propriétaires dans les gens qui viennent dans une ville, il y a des locataires aussi. Donc il y a un vrai sujet là-dessus qui est comment on réussit quand même à construire un nombre de logements. Alors je ne sais pas si c'est 500 000 par an, moi je pense que c'est un peu plus bas.
C'est pas par an.
Si, c'est par an.
C'est par an.
Mais bon, peu importe le nombre de constructions, parce que si vous les mettez n'importe où, si vous les mettez à Agen, les maisons, elles ne servent pas à grand-chose. Donc autant les mettre là où il faut. Donc il faut plutôt faire 500 000 bien ciblés. Et l'autre question qui se pose, c'est quand même de se dire.
Bien à Agen aussi.
Toulouse.
On revient à la question des banques centrales. C'est que la question qui se pose, c'est que si les gens ne deviennent pas propriétaires de leur résidence principale, c'est le moyen le plus sûr pour que les gens de la classe modeste créent du patrimoine. Et aujourd'hui, en ayant freiné, comme on l'a fait, les taux d'intérêt, donc en ayant bloqué la capacité à acquérir sa résidence principale pour beaucoup de foyers modestes ou de classe moyenne, on empêche la création de patrimoine pour ces gens-là. Et ça a un impact à très long terme.
C'est ce que vous appelez une bombe sociale. ChatGPT, Guillaume Dard. Est-ce que d'abord vous redoutez ChatGPT? Est-ce qu'il faut encadrer ChatGPT? Ce qu'a fait un député était assez inattendu pour essayer d'alerter un petit peu sur ce qu'il lui appelle les dangers. Il a décidé qu'il déposait un amendement au projet de loi sur les JO 2024, rédigé intégralement par une intelligence artificielle.
Alors, d'abord, un témoignage personnel. Quand ChatGPT est arrivé, je me suis dit, ah, peut-être qu'il va me donner les bonnes solutions. Donc je lui demandais ce qui, dans quel domaine il fallait investir.
Là, c'est le 4, là. On parle du
GPT-4. Oui,
du
mais j'ai compris. Enfin, bon, dans quel domaine fallait-il investir? Le problème, c'est que comme sa base de données s'arrêtait à, je sais plus si c'est 2021, il m'a dit, je sais pas, parce que là, je sais pas lire l'avenir. Et puis, en tout cas, c'était très prudemment fait, puisque c'était ce qu'on appelle un disclaimer, c'est-à-dire des consignes de précaution en disant, pour investir, demandez à votre conseiller financier ou à votre banque. Ça aurait pu être fait par une autorité réglementaire. En tout cas, pour l'instant, ChatGPT, vous ne poussez pas à la bêtise. Bon. Alors, la tentation européenne et française, effectivement, de tout de suite, quand il y a une invention, essayer d'en limiter les effets.
J'ai un auditeur qui m'a dit exactement ça.
Limiter les effets, elle est un peu consternante. Et cette espèce, au fond, la France qui aimait le progrès, la France qui aimait les voitures, qui aimait l'aéronautique, je me souviens encore de l'enthousiasme quand le Concorde s'est mis à voler, on était content qu'on avait une fusée. Alors, on est d'ailleurs encore intéressé, hein. Quand SpaceX est parti, tout le monde a regardé la télévision, hein. C'était sur BFM non-stop. Donc, mais comme on le fait plus vraiment nous, on a une espèce de méfiance quasiment. On se croirait au XVIIe siècle. On n'aime plus l'invention. Je veux dire, on est prêt à casser les machines. Et donc, avant de légiférer, enfin, c'est vraiment la phrase connue. C'est si ça marche, taxez-le. Si ça marche encore, réglementez-le, et si ça marche plus du tout, subventionnez-le, quoi. Enfin, donc, alors que ce matin sur BFM Business, on voyait que l'ex-patron de l'intelligence artificielle de Facebook,
Yann Luc.
Voilà.
Yann Luc.
Était maintenant créé quelque chose en France, dans la défense, et il expliquait que la plupart des bons ingénieurs sur l'intelligence artificielle de tout le groupe Meta était basé en France. Donc, commençons pas à perdre d'avance. Enfin.
Mais non, mais je pense pas que ce soit de la haine d'un produit américain. C'est la crainte de ce qu'il est capable de faire.
La crainte
plus que l'origine.
Si on est que dans la crainte du nouveau avec des logiciels, comme le disait.
Cet auditeur s'appelle JP. Il me dit, j'ai honte de cette Europe incapable d'innover, mais experte pour taxer et freiner les outils révolutionnaires comme ChatGPT.
Voilà. Il a raison. Non, mais
l'esprit faible détruit ce qu'il ne comprend pas. Jean-Marc,
un livre dont nous avons parlé à la Librairie de l'Écho, le livre de Daniel Susskind, qui est un des spécialistes anglais un économiste anglais assez connu, il dit bien, en fait, face à toute nouvelle invention, il y a une réflexe de résistance des gens qui vont se perdre leur emploi. Il dit, au début, qui a perdu des emplois, c'est les chevaux. Bon, là, pas de résistance, les mecs ont disparu. Ils ont disparu, on les a cantonnés dans des écuries, puis on n'en a plus parlé. Ensuite, ça a été les gens qui développaient une force physique. Donc là, on a tiré dans le tas, on leur a laissé adhérer au Parti communiste pendant un certain temps, puis après, Et il dit, maintenant, c'est la classe intellectuelle qui est menacée.
L'intelligence carbonée.
Et l'intelligence carbonée.
Ça fait pas mal de champs.
Et il dit, normalement, il y a trois métiers qui vont disparaître, c'est médecin, avocat, journaliste. Or, les trois sont des braillards. Et donc, il explique que...
je peux vous allonger la liste, hein, Jean-Marc. Professeur, hein.
Professeur aussi. Oh, oui. Professeur aussi. Et donc, il dit bien, effectivement, on va assister à une espèce de combat d'arrière-garde qui prendra des formes différentes. Les chevaux, rien. Les manuels, ça a été une forme de violence physique. Là, ils vont nous envahir les écrans, avec un discours, un message, comme quoi ils sont utiles, indispensables et tout ça. Mais de toute façon, et je pense effectivement, pour revenir au professeur, il y a 100 000 professeurs d'université, je pense qu'il y en a besoin de 10 000.
Non.
Et donc, alors je ne vais pas me prononcer sur les journalistes, ce serait délicat. Sur les avocats, maintenant,
l'intelligence... Il y a 35 000 journalistes en France, à peu
près. L'intelligence artificielle, notamment aux États-Unis, réussit mieux les concours pour s'inscrire au barreau que la plupart des étudiants en droit.
Vous avez fait Polytechnique, Jean-Marc.
Oui.
Ben, ChatGPT, en voyant avec une caméra, hein, pas en rentrant des données écrites, le sujet d'entrée à Polytechnique a mis 10 secondes pour trouver la solution.
Oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que le fait que j'ai été capable de passer cet exercice en mathématiques, après, ne m'a plus jamais servi à rien. Plus personne ne m'a demandé de faire des mathématiques.
C'est comme tous ceux à qui ont dit il faut faire allemand LV1, et qui disent aujourd'hui mais j'ai jamais utilisé l'allemand de ma vie. Enfin bon, j'entends.
Ça, c'est une erreur.
J'entends bien, mais.
C'est pour ça qu'on ne communique pas assez avec les Allemands.
L'intelligence au silicium qui est capable de se substituer à l'intelligence carbonée, je pense que c'est d'un coup, d'un seul. C'est sans doute plus révolutionnaire que l'arrivée de la photocopieuse ou l'arrivée du camion citerne, vous voyez, enfin du camion benne, pour alléger les charges lourdes.
Robert Rivaton. Juste un mot, parce que chez Stonal, c'est ce qu'on fait. Nous, on applique de l'IA à la partie immobilière en apprenant à une IA à lire tous les documents immobiliers. Donc, elle est capable de lire un bail, un document technique. Et donc, on remplace personne parce qu'en fait, personne ne le faisait. C'est-à-dire que dire à quelqu'un, tu vas ouvrir tous les documents pour vérifier s'il y a bien la clause anticorruption ici, personne ne le faisait. Donc en fait, on remplace pas vraiment quelqu'un. La machine vient vraiment faire des tâches que l'être humain avait décidé que c'est trop pénible de ne pas faire. Mais alors, juste un mot sur ChatGPT. ChatGPT, il faut
bien voir. Les profs les plus inquiets parce que les élèves vont arrêter de réfléchir.
Oui.
Bon, au début, c'est là-dessus que
on a dit ça. Arrêter de réfléchir.
Ils ont commencé.
Ça a déjà commencé il y a longtemps. Je ne dis pas ça devant notre dossier d'élèves. Mais vous savez que sur l'intelligence artificielle, la première élément qu'ont dit les professeurs, c'est qu'on repère tout de suite un texte d'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas assez de fautes d'orthographe.
Ben oui. Vous connaissez l'histoire, quand moi-même j'avais fait faire des devoirs à des élèves et que dès que c'était bien écrit avec une pensée un peu structurée sans faute, je retrouvais la source sur Google.
Tout de suite.
De A à Z. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'IA, mais il y avait déjà Google. Pardon, allez-y, Robert.
Juste sur ChatGPT, parce qu'on en parle beaucoup. ChatGPT, en fait, c'est l'écume de la vague. C'est une révolution d'abord culturelle, au sens où il y a plein de gens qui ont découvert l'IA à cette occasion-là. Oui. Mais l'outil en lui-même, c'est un outil, on n'est pas sûr qu'il va être celui de demain. Aujourd'hui, il y avait une quinzaine de milliards de dollars investis dans l'IA il y a 10 ans. C'est 176 en 2022, ça va être sans doute 300 en 2023. Quand vous investissez 300 milliards à l'échelle du monde, vous trouvez des choses. Voilà, la règle est assez simple. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas si c'est OpenAI, je ne sais pas si ce sera Meta, je ne sais pas si ce sera Nvidia.
OpenAI est le fonds qui assure.
C'est une société qui fait. À profit limité,
le
mais c'est une société.
De ChatGPT.
Voilà. Donc,
cliente de SVB.
La seule chose que je sais, c'est que toutes ces boîtes-là sont américaines et un petit peu chinoises. Oui. Toutes sont américaines. Il n'y a pas une équipe européenne. Il y a des Européens qui travaillent dans ces sociétés-là, ça c'est sûr.
Ce matin sur BFM, il y en avait.
Les boîtes sont minuscules. Vraiment, c'est des boîtes. Alors, il y aura des applicatifs de certains modules de l'IA à des métiers, comme ce que nous on fait. Donc, ça marche très bien. Mais ce que je veux dire, dans les gens qui sont les producteurs des briques essentielles, donc c'est le modèle de langage étendu, ce ne sont que des Américains. Donc, l'Europe est complètement passée à côté. Et l'Europe est en train de réglementer ce système-là, histoire de se dire, au moins, on est passé à côté de manière consciente. Donc, c'est un choix intéressant.
Il faut espérer que ça ira pas trop loin dans la réglementation parce que
elle existe cette réglementation.
C'est comme si on disait c'est à l'époque de la tradition orale, ceux qui savaient l'Iliade et l'Odyssée par cœur, elle dit non, si c'est écrit ça,
exactement.
Alors à ce moment-là
3 minutes Jean-Marc,
c'est comme refuser l'imprimerie quoi.
Le CEPI publie aujourd'hui un document, une étude, réalisée notamment par Thomas Grigebin, parmi les économistes concernés, où ils essayent de chiffrer le coût social de la transition écologique. Selon eux, le coût social va être à peu près équivalent, en termes d'emploi, à ce qu'a provoqué la désindustrialisation de la France entre 1997 et 2021. Ils affirment que non, le tertiaire ne compense pas les emplois supprimés dans le cadre du recul de l'industrie. Non, les licenciés de l'industrie n'ont pas tous pu rejoindre d'autres entreprises performantes. Beaucoup, beaucoup ont eu du mal à retrouver un véritable emploi au sens de l'INSEE. Et les peu qualifiés qui ont retrouvé un emploi y ont généralement perdu en salaire. Et donc l'un des auteurs dit « le mécanisme schumpeterien de destruction créatrice ne fonctionne pas ». C'est donc une vision très sombre de ce que la nouvelle révolution verte, cette fois-ci, va provoquer en termes de
ça fait deux siècles que on parle de l'intelligence artificielle.
On a 2 minutes, hein, Jean-Marc.
Oui. Là, on pourrait dire, non, mais tous ces avocats, ces médecins, ces professeurs, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont jamais retrouver un emploi et tout ça. On nous a déjà fait le coup avec l'exode rural. Il y a un exode industriel. Et puis, il n'y a jamais eu autant d'emplois dans ce pays que depuis que la désindustrialisation annoncée est en cours. On a supprimé 3 millions d'emplois industriels et il n'y a jamais eu autant d'emplois dans ce pays. Donc, tout ça, c'est des annonces qui sont des annonces qui sont assez traditionnellement catastrophistes et qui ne correspondent pas à ce qu'on observe sur le terrain.
Alors, ce qu'il dit, c'est que, par exemple, vous prenez les phénomènes de forte désindustrialisation qui ont touché plus certains endroits que d'autres, et ils disent, objectivement, vous avez quand même des territoires où les salariés, comme les territoires, globalement, ne s'en relèvent pas ou difficilement. Alors, oui, effectivement, si on regarde de tout en haut, on va peut-être dire, ah ben, regardez au global, okay. Localement...
Voilà, non, mais Schumpeter dit pas... Je parle sous le contrôle de Jean-Marc, mais Schumpeter n'a pas écrit qu'il y avait un remplacement du job qui était détruit le lendemain matin. Oui. Donc, il y a deux choses. Le phénomène de destruction créatrice, c'est-à-dire, au fond, l'économie bouge structurellement en permanence au fur et à mesure des innovations marquantes. Et c'est évident que,
à des phases d'innovation très marquantes ou de transformation très fortes, il peut y avoir un temps de réglage pour qu'on retrouve les jobs. Donc, mais ça ne met pas, ça met en cause, ça alerte sur un phénomène. Encore que nous, j'ai mon pensée, on est très attaché à la transition climatique. Et tout ce qu'on voit, c'est que ça va plutôt créer davantage de jobs. Donc, cette étude est sûrement parfaite, mais j'en ai vu 5 ou 6 D'accord. où ça dit exactement le contraire et que ça va créer 2 fois plus de jobs.
Ils sont convaincus qu'il y aura des réallocations de secteurs gagnants vers des secteurs perdants. Mais avec des forts déséquilibres territoriaux.
Cette étude est sûrement formidable, j'en ai vu 5 qui disent le contraire.
J'avais simplement envie de dire à Jean-Marc Daniel, les yeux dans les yeux, la destruction créatrice ne fonctionne pas.
Non, ça mais il y a un siècle, si vous regardez la répartition de la population, il y avait plus de gens autour de Lens ou dans le Massif Central qu'il y en a aujourd'hui. Bon, entre-temps, on a fait de l'exode rural et on a fermé les mines.
Jean-Marc Daniel aujourd'hui, Guillaume Dard et Romain Rivaton. On se retrouve demain à 9h.